Lettre 58e, continuation de la précédente. Berry Hill, 21 juillet. Vous m'accusez d'être mystérieuse, et puisque vous le dites, je dois croire que j'ai mérité ce reproche. En attendant, vous ne savez pas, ma chère, combien il m'en coûte de me justifier. Mais je ne connais point le moyen de résister à vos instances obligeantes, et je vais vous confier tous mes secrets. Ma réserve serait d'autant plus déplacée que j'y perdrais la première, car j'espère bien que votre amitié et votre affection contribueront à me soulager. Soyez sûr que si mes chagrins partaient d'une autre source, je n'aurais pas balancé un instant à vous ouvrir mon cœur. Mais la situation dans laquelle je me trouve est telle que je voudrais la cacher non seulement au monde entier, mais à moi-même, si cela se pouvait. Venons-en en fait, puisqu'il faut parler. En vérité, je ne sais comment m'y prendre pour vous l'expliquer. J'essaie 20 tours de phrases et aucune ne veut se prêter à mes idées. Je fais un effort pour entrer en matière. Ah, Miss Mirvan, eussiez-vous jamais cru qu'un homme qui semblait être formé pour servir de modèle, qui approchait de la perfection, qu'un homme d'une politesse achevée, d'une douceur de mœurs au-dessus de toute comparaison, l'eussiez-vous cru, Miss Mirvan, qu'un Mylord Orville aurait pu me traiter avec indignité? C'en est fait. Jamais je ne m'en fierai aux apparences, jamais je n'en croirai mon faible jugement, jamais je ne me persuaderai que pour être homme de bien, il suffit d'être aimable. Quelle maxime cruelle la connaissance du monde n'inspire-t-elle pas? Mais, tandis que je m'abandonne à mes réflexions, j'oublie que je vous ai laissé en suspens. J'avais précisément achevé la dernière lettre que je vous avais écrite de Londres, quand la servante du logis m'apporta un billet. Le laquais qui le lui avait remis avait dit qu'il repasserait le lendemain pour prendre la réponse. « Ce billet, mais jugez-en vous-même, ma chère, le voici, à Missanville. » J'ai lu avec transport la lettre dont vous m'avez fait le cadeau hier matin, oh, la plus aimable des femmes. Je suis fâché que l'accident survenu à mon carrosse ait pu vous inquiéter un moment, mais j'ai été très flatté en même temps de la manière obligeante dont vous exprimez votre embarras. Croyez-moi, ma chère enfant, je suis très sensible à la bonne opinion que vous avez prise de moi. Elle m'honore et me pénètre de tendresse et de gratitude. Je serai fier de continuer la correspondance que vous avez commencée avec tant de complaisance, et j'espère que vous sentez trop le prix de cette faveur pour que vous pensiez à me la retirer. Je désire passionnément de mettre à vos pieds les expressions de ma reconnaissance et de vous payer le tribut qui est dû à vos charmes et à vos perfections. Marquez-moi, je vous supplie, jusqu'à quand vous comptez rester en ville. Le domestique par lequel j'enverrai prendre votre réponse est chargé de me l'apporter en poste. Je l'attendrai avec une impatience que rien ne peut égaler, si ce n'est de vous assurer de vive voix combien je suis, ma belle enfant, votre sincère admirateur, Orville. Quelle lettre! Chaque ligne est un outrage. Vous savez, ma chère amie, en quels termes je l'écris. Méritais-je une telle réponse? Ce qui m'humilie le plus, c'est de m'être attiré volontairement cet affront. Mon intention n'était que de lui faire une simple excuse. Je croyais la lui devoir, je croyais la devoir à moi-même, et en jugé par sa lettre, ne dirait-on pas que la mienne contenait l'aveu de sentiments propres à exciter son mépris? Je me retirai dans ma chambre au moment où la lettre me fut rendue. Je la parcourus rapidement et je l'avoue, elle me fit plaisir. Incapable de soupçonner une incongruité de la part de Mylord Orville, je n'observai pas d'abord ce que sa réponse renferme de choquant. Je ne m'arrêtai qu'à ce qu'il me disait d'obligeant, et je fus si peu maîtresse de mes mouvements qu'il me fallut du temps pour m'en remettre. Je me promenais à grands pas dans ma chambre et je me demandais à diverses reprises « Serait-il possible que Mylord Orville t'aimât ?» Mais ce songe fut bientôt dissipé et je me réveillais pour éprouver des sensations très différentes. Une seconde lecture du billet me dessilla les yeux. Je ne le reconnus plus, chaque parole me parut changée. Chaque phrase choisie pour me faire rougir. Mon étonnement fut extrême, et je n'en revins que pour m'abandonner à une juste indignation. Je ne me fais point de peine d'avouer que j'ai commis une faute en écrivant à Mylord Orville. M'était-ce à lui de m'en punir? Si je l'ai offensé, ne pouvait-il pas prendre le parti de garder le silence? Si la démarche que je me suis permise lui semblait déplacée, ne devait-il pas l'excuser par mon âge et par mon défaut d'expérience? Oh, Marie, comme je me suis trompé sur le compte de cet homme. Ma plume essaierait en vain de vous exprimer la haute idée que j'avais de lui. Si je l'avais moins estimé, je ne me serais point tant précipité de lui écrire, malheureuse précipitation, combien elle me cause de regrets. Quoi qu'il en soit, je devrais peut-être me réjouir plutôt que de me chagriner, puisque cette affaire me découvre à fond le caractère de Mylord Orville et écarte une trop grande partialité qui m'aveuglait sur ses défauts et ne me laissait voir que ses vertus et ses bonnes qualités. Si j'avais été plus longtemps dans l'erreur, si j'avais eu le loisir de me fortifier dans les préjugés favorables que j'avais adoptés, qui sait à quelles extrémités mes fausses idées m'auraient conduite? Je crains que mon danger n'ait déjà été plus grand que je ne le croyais, et je n'y saurais penser sans trembler. Mon cœur n'était que trop enclin à recevoir des impressions qui, s'ils avaient pris racine, ruinaient pour toujours mon repos et mon bonheur. Quelque disposé que je sois à chasser de mon esprit la mélancolie qui l'assiège, et à vous présenter, mon ami, des images plus riantes, je n'y saurais réussir car, indépendamment de l'humiliation que je souffre, j'ai encore un autre sujet de chagrin. Hélas, ma chère Marie, j'ai troublé la tranquillité du meilleur des hommes. Je n'ai pas eu le courage de lui montrer cette cruelle lettre. Je ne pouvais me résoudre d'avilir à ses yeux celui que peu auparavant j'avais élevé jusqu'au nu. Mon premier plan fut de garder par devers moi le secret que vos instances amicales viennent de m'arracher. Aujourd'hui, je voudrais que je n'en eusse jamais fait un mystère à M. Villard. Que doit-il penser du sérieux qui, malgré moi et contre ma coutume, m'accompagne partout? Ce que je crains le plus, c'est qu'il ne s'imagine que mon séjour à Londres ne m'ait dégoûté de la campagne. Tout le monde s'aperçoit que je ne suis plus la même. Mon visage est pâle et défait, ma santé dérangée. On me le dit, on glose, mais ces critiques ne me toucheraient pas si elles n'attiraient en même temps l'attention de M. Villard. Chacun de ses regards me parle du tendre intérêt qu'il prend à ma situation. Dans un entretien que j'ai eu aujourd'hui avec lui sur mon voyage de Londres, il a fait mention de Mylord Orville. J'en étais tellement décontenancé que j'ai cherché à détourner immédiatement la conversation. Il l'a continuée malgré cette défaite, et à ma grande surprise, il a fait le panégyrique du Lord dans les termes les plus forts, prônant surtout sa conduite décente et honnête à Marybone. J'avais les joues en feu et bien de la peine à contenir mon dépit. Pouvais-je en effet entendre louer tranquillement par le meilleur des hommes celui dont je m'étais fait autrefois l'idée la plus flatteuse et qui, par sa conduite, m'a détrompé si cruellement? Je crains d'apprendre ce que M. Villard aura pensé de mon silence et de mon embarras. Mais j'espère qu'il ne touchera plus cette matière. En attendant, j'aurai des reproches à me faire si je me livrais à une mélancolie qui devient contagieuse pour le respectable vieillard, dont le consentement me tient à cœur par devoir. Je suis reconnaissant de ce qu'il n'a point persisté à sonder ma plaie, et je tâcherai de la guérir par la conviction que j'ai de n'avoir pas mérité l'affront qu'on m'a fait essuyer. Mais n'est-il pas triste, ma chère, de vivre dans un monde trompeur, où il faut se défier de ce qu'on voit, de ce qu'on entend et même de ce qu'on sent ?